vivant, c'est celui qui se meut. Donc, il a une espèce de spontanéité qui fait qu'il ne s'aperçoit même pas de toute la complexité dans laquelle il se trouve. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va plus, il s'aperçoit qu'en effet, tout cela représente quelque chose de très important. Un de mes amis définit l'homme au point de vue biologique, une cathédrale de molécules. Alors quand je vois quelqu'un qui s'avance vers moi, je dis quelle belle cathédrale de molécules. Suivant que ses yeux sont plus ou moins illuminés, je me dis, on est le matin ou le soir, en plein midi, ou au contraire, quelquefois, un ciel de plomb. C'est vrai, le sujet qu'on traite cette année-ci est un sujet particulièrement important. Je crois capital aujourd'hui. Et je voudrais quand même, au début, évoquer quelques aspects qui me semblent très importants. Nous vivons dans un climat d'idéologie positiviste. Là, je crois que c'est facile de s'en apercevoir. Et l'idéologie positiviste consiste à nous faire croire que la seule connaissance authentique, ce sont les connaissances scientifiques. Et pas les autres. Connaissances sont des connaissances très secondaires, pour ne pas dire du sentiment. Et ceci est particulièrement net quand il s'agit du vivant et de l'homme comme vivant. On aurait une tentation permanente de tout ramener à ce que représente la science biologique sur l'homme. Mono, je prends exprès mono, puisque il n'est plus vivant, alors on peut parler de lui plus librement. Mono était le type tout à fait net de cette mentalité. C'était un biologiste remarquable, mais qu'est-ce qui venait limiter sa science biologique, c'était son idéologie positiviste, dont il n'avait pas conscience. Comme souvent ça arrive chez beaucoup de savants, ils n'ont pas conscience que leur science, étant particulière, ne peut pas tout dire. Et l'idéologie positiviste vient d'être comme une espèce de carcan à leur science, parce que l'idéologie positiviste est fausse. Alors toute erreur diminue notre recherche intellectuelle. Ça nous enlise. L'idéologie positiviste est quelque chose de très particulier, surtout quand il s'agit du vivant. On aura l'occasion constamment de le souligner. Spécialement ce soir, c'est pour ça que je commence tout de suite par ce point de vue, parce que je crois ça important quand il s'agit du vivant, de comprendre que la science biologique nous dit des choses très intéressantes et qui sont toujours, comme dirait le philosophe, du côté de la cause matérielle. La science biologique ne peut rien nous dire de l'âme. Je me souviens encore, c'était une petite expérience d'un docteur en biologie espagnol, de grande famille espagnole, puisqu'il était un Guzman. Et pour moi, ça me touchait particulièrement, puisque Saint-Dominique était de cette famille. Et que ce docteur en biologie qui travaillait à Genève venait à Fribourg pour faire un peu de philosophie. Alors je l'avais invité tout de suite à un séminaire qui était justement sur le péripsuchès dans le livre de l'âme d'Aristote. Et Aristote disait, avec la simplicité avec laquelle Aristote dit les choses, parce que de son temps il pouvait les dire avec cette même simplicité, que toute l'intelligibilité qu'on avait du corps provenait de l'âme. Et on était justement à ce moment-là. Aristote dit que l'acuité, donc l'intelligibilité du corps, provient de là. Alors, j'ai vu ce docteur en biologie, croyant, très croyant, puisque je crois qu'il avait une vocation bénédictine, et je crois qu'actuellement il est bénédictin, je voudrais beaucoup le revoir. Docteur en biologie, et très compétent dans sa biologie. Il a entendu ça, je l'ai vu frémir. À la fin du séminaire, je l'ai attendu et je lui ai dit, vous avez reçu un poulet en plein ventre ou en pleine tête plus exactement. Alors il m'a dit oui. Alors la science biologique, qu'est-ce qu'elle fait? Alors j'ai dit, elle décrit, elle pose des lois. Et ça ne va pas jusqu'au bout. Alors, j'ai vu qu'à ce moment-là, je posais un point d'interrogation, puisqu'il était chrétien, il était spirituel. Il croyait en l'immortalité de l'âme. Alors, j'ai dit, vous croyez que la cohabitation de l'âme spirituelle avec le corps ne change rien du tout au corps? Croyez que le fait que l'âme spirituelle informe un corps, ça ne modifie pas certaines choses? Il dit oui, j'y crois, mais ma science biologique semble me dire l'inverse. Il a dit, réfléchissez bien là-dessus. Il ne peut pas y avoir deux vérités, mais il peut y avoir des approches de la même réalité. Le vivant parfait que nous expérimentons, c'est l'homme. Personne d'entre nous n'a expérimenté un vivant plus parfait que l'homme. Personne. Nous n'avons pas expérimenté des martiens qui peut-être étaient plus vivants que l'homme. Et vous n'avez pas expérimenté Dieu. Si vous êtes un mystique, au point de vue de la foi, vous pouvez avoir un contact intime avec Dieu. Mais alors, c'est tout à fait différent, c'est d'un autre ordre. Mais au plan philosophique, nous n'avons pas l'expérience d'un vivant plus parfait que l'homme. C'est déjà bien, du reste, d'avoir cette expérience-là. Et cette expérience, vous l'avez au plus intime de vous-même. Parce que vous expérimentez au point de vue vivant votre voisin ou votre voisine en fonction de ce que vous êtes. Vous expérimentez le chien comme vivant en fonction de ce que vous êtes. Ou le petit chat, si vous l'aimez mieux. Vous projetez sur le chien et sur le chat ce que vous expérimentez en vous. C'est très curieux le statut de la connaissance du vivant. Et je crois que là, c'est très important, dès le point de départ, de comprendre qu'il y a là un statut philosophique particulièrement difficile à préciser. Mais je souligne tout de suite au point de départ que la connaissance biologique, la science biologique, elle décrit la complexité du corps vivant de l'homme. Une très grande complexité. Et que c'est de fait le vivant le plus parfait que vous expérimentez, mais la méthode biologique, de la science biologique, ne me permet pas d'atteindre l'âme spirituelle. Je n'atteins C'est vrai, quand vous faites une coupe histologique, ben, il faut bien évidemment que le sang ne soit plus sang vivant. Le sang vivant, il est dans mes veines. Mais dès qu'il coule, il n'est plus vivant. Vous pouvez le garder un certain temps, le maintenir un certain temps, mais au bout d'un certain temps, il disparaît. Et la coupe histologique, vous ne le faites pas par rapport au vivant, vous le faites par rapport au vivant qui est mort. Parce que la connaissance de la science biologique se fait de l'extérieur. On mesure certains aspects du vivant qui est l'homme. C'est une connaissance par mode de mesure, donc extérieure. Le philosophe voudrait, il y arrive très difficilement, mais s'il voudrait connaître le vivant de l'intérieur. Et c'est ça qu'il cherche. Parce que pour le vivant, je suis dans une situation unique. Ma vie, c'est ma vie. Et je puis seul la saisir vraiment. Vous n'avez qu'à faire la petite expérience très simple quand vous vous regardez dans la glace. Ça peut arriver. Quand vous vous regardez dans la glace, vous dites, c'est comme ça que les autres me voient. C'est quand même drôle. Moi, ça fait toujours cet effet-là. Parce que je me vois pas du tout de la même façon. Parce que je me vois de l'intérieur. C'est la petite expérience qu'on a tous fait la première fois où on a enregistré notre voix. Pas quand elle est comme ça, parce que quand elle est comme ça, elle est assez lamentable. Et on le sait. Mais une voix normale. La première fois que vous avez entendu votre voix, comme c'est drôle, c'est pas du tout la même chose que de parler. C'est un petit exemple que quand vous parlez, vous saisissez ce qu'est la voix vivante, ce qu'est la parole vivante. La parole vivante, c'est celle que vous émettez. Vous la saisissez de l'intérieur, vous en êtes source. Et pour toute votre vie, vous êtes source. Et donc, si vous êtes extérieur, vous ne saisissez que des effets. Vous ne remontez pas à la source. Vous saisissez que des effets multiples. Mais ce qui est important, c'est de saisir l'unité. Si on ne peut pas remonter à la source, on ne saisit pas l'unité. Vous voyez, il y a là un problème très particulier pour la philosophie du vivant. C'est que pour la philosophie du vivant, le philosophe se saisit de l'intérieur. Il a une situation privilégiée qu'il respecte pour son voisin. Et il dit que chacun d'entre nous, nous avons une situation privilégiée pour saisir ce que c'est que notre vie. Et que les autres ne saisissent que de l'extérieur. Ils saisissent les effets, les manifestations extérieures. Mais ils ne saisissent pas le jaillissement de la vie. Or, est-ce que ce n'est pas ça qui caractérise le vivant? C'est le jaillissement de la vie. C'est que je suis source de mes diverses activités. Et que ces diverses activités viennent de moi. Et que personne d'autre ne peut les remplacer. C'est pour ça que je ne peux pas saisir exactement la signification d'un chien qui pleure. Parce que il est séparé de son maître. Alors, je ferai une petite projection en disant, moi, je pleure quand je suis triste. Le chien pleure quand il est triste. Mais il ne vous l'a jamais dit. C'est très difficile de savoir qu'est-ce que le chien ressent. Et le chat, encore plus difficile, parce qu'il se cache plus. Du moins, je crois. Voyez, pour le philosophe du vivant, il a cette situation très particulière qu'il peut saisir de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Il sait qu'il est unique à cela. Et pour autant, il ne faut pas tomber dans l'introspection. Parce que ce ne serait plus la philosophie. L'introspection, on voit très bien ce que c'est. Puisqu'aujourd'hui, au point de vue psychologique, on voit très bien l'introspection. Au point de vue philosophique, Mendubiran a été premier philosophe de l'introspection. Il a été le premier à décrire les états d'âme. Chaque matin, quand vous vous levez, vous avez un état d'âme où vous êtes de mauvaise humeur parce qu'on vous a levé trop tôt, vous a réveillé trop tôt. Ça arrive toujours quand on s'est couché trop tard et qu'on a été trop fatigué. Alors on a des états d'âme de mauvaise humeur. Ou bien au contraire, quand on s'est bien reposé et puis qu'on sait qu'on a une journée merveilleuse devant soi. Oh, c'est agréable. C'est merveilleux. L'aurore aux doigts de rose. Hein. C'est quelquefois psychologiquement vécu. C'est merveilleux de se réveiller. Puis, il y a la journée. Il y a des états successifs. La philosophie du vivant, c'est pas décrire nos états d'âme. Je ne vais pas vous faire une philosophie de vos états d'âme, si intéressant que ce soit. Et hélas, ce ne serait que les miens qui ne correspondraient pas aux vôtres. Parce que nos états d'âme ne sont pas les mêmes quand on a 18 ans, quand on a 40 ans, quand on a 70 ans. C'est pas les mêmes. Il y a des états d'âme différents. Alors, la philosophie du vivant doit être faite par des petits tronçons. Le vivant de 15 ans, le vivant de 10 ans. Psychologiquement, c'est ce qu'on fait. On fait la psychologie du tout petit. On projette, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il pense. Le sevrage. Difficile à savoir ce que ça représente. On regarde les effets, et en fonction des effets, on dit que c'est pas commode. La naissance. Hein? Rappelez-vous votre naissance. Pas commode. Et la conception. Pas commode. Qu'est-ce que vous avez pensé au moment de la conception? Ah, vous dites tout de suite, rien du tout. Je suis tout à fait d'accord, rien du tout. Alors, ça vous échappe. Donc, l'introspection ne me dit pas ce que c'est que le vivant dans toute sa dimension. C'est très important, l'introspection. C'est très important parce que ça me permet de me toucher. Mais je vois très bien que je ne peux pas tout décrire. Il y a quelque chose qui va plus loin. Vous voyez, ce statut très particulier, et ça j'insiste, parce que c'est justement ce que nous devons un tout petit peu voir ce soir, que ce statut philosophique du vivant comme vivant est quelque chose de très particulier. Le vivant doit se saisir de l'intérieur. Il y a une situation privilégiée. Je n'ai pas le droit d'abandonner cette situation. Exactement comme dans un accident. Il y a la situation privilégiée de celui qui subit l'accident. Et puis il y a la situation du spectateur. Et il y a la situation du gendarme. Hein, ce sont des situations très différentes. Mais la situation de celui qui subit l'accident, elle est unique. Ça, c'est sûr. Vous avez vécu à ce moment-là un moment très particulier. Si vous n'êtes pas tombé tout de suite dans le coma, mais autrement, vous avez subi quelque chose de très particulier quand on est resté entièrement éveillé. C'est quelque chose de spécial. Et on sait très bien que personne ne peut vivre ce qu'on a vécu. Le vivant a conscience que ce qu'il vit est toujours d'une originalité unique. Et que personne ne vivra exactement la même chose que lui. Ça, je crois, aussi bien dans la joie que dans la souffrance. Il est unique à vivre ça. Donc, on ne pourra pas, au plan philosophique, abandonner cela. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Pour la métaphysique, pour la philosophie de la nature, je n'ai pas ce privilège. Je n'ai pas ce privilège. L'être, vous n'avez jamais saisi de l'intérieur. Ce que vous êtes, vous n'avez pas saisi de l'intérieur. Votre devenir, au sens très fort, vous le subissez. Le tout, vous le subissez. Si vous pouviez arrêter le soleil de temps en temps, soleil, arrête-toi. Vous l'arrêteriez à certains moments de votre vie, pas tout le temps, pas au moment des examens. des examens de soleil, arrête-toi. Alors l'examen durerait très très longtemps. Mais au moment où il y a une très grande intensité d'amour, ben vous auriez envie de dire, soleil, arrête-toi. Et puis vous êtes obligé de voir qu'il ne s'arrête pas. Vous subissez le devenir. Et l'être, vous le saisissez pas de l'intérieur. Le vivant, ah, c'est tout à fait particulier. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, ça. Et c'est très important. C'est capital de comprendre qu'il y a une connaissance d'intériorité au plan philosophique. Et que cette connaissance d'intériorité, elle est unique. C'est de saisir le vivant. On le saisit de l'intérieur. Nous verrons ça progressivement, mais je vous le dis tout de suite pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose de très particulier à saisir. Et cependant, ce n'est pas l'introspection. Donc il y a divers degrés d'intériorité. Il y a diverses manières de vivre cette situation unique du vivant. Ce n'est pas l'introspection. L'introspection, on sait très bien ce que c'est. Écrivez votre journal de vos états d'âme. Vous connaissez parfaitement ce que c'est l'introspection. Journée difficile, difficulté, j'ai rencontré tous les gens que je n'aimais pas de rencontrer. Vous ne savez pas comment ça se fait. Il y a des journées fastes, il y a des jours au contraire fastes. Vous voyez, ça c'est l'introspection. Mais l'introspection, vous restez dans votre individualité. Vous ne pouvez pas faire une philosophie par là. Impossible. Si vous avez de l'art, vous pouvez décrire ça magnifiquement. Mais c'est une description artistique, c'est pas de la philosophie. La philosophie doit aller plus loin, elle doit saisir des principes, des sources. Vous savez bien la définition que Peggy donne de la philosophie. Je crois que c'est toujours bon de se la rappeler. Et je prends Peggy parce que Peggy n'est pas un philosophe. Et Peggy donne lui-même cette définition de la philosophie. Je crois qu'il le dirait aujourd'hui avec encore beaucoup plus de force. Peggy dit: beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes descendent le fleuve. C'est facile de descendre le fleuve. Tout le monde descend le fleuve. Et Peggy ajoute, les cadavres descendent le fleuve plus vite que les autres. Donc quand quelqu'un vous dit, quand vous lui avez demandé pourquoi faites-vous ça, et qu'il vous répond spontanément, parce que tout le monde le fait, j'ai compris, vous descendez le fleuve. Et les cadavres descendent plus vite que vous. Il faut de temps en temps dire ça. C'est une excellente petite correction fraternelle. C'est très affligeant. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas du tout pourquoi ils font telle ou telle chose. Et tout le monde le fait. Pourquoi avez-vous acheté telle ou telle robe? Ah, c'est la mode. Tout le monde le fait. C'est à l'ordre du jour. Je demandais à un peintre une fois, que je connaissais bien, qui avait fait des choses ravissantes. Puis un beau jour, une nouvelle exposition, l'art abstrait. Je n'ai rien contre l'art abstrait, mais il faut qu'il soit vrai. Hein. Alors je dis, mais pourquoi faites-vous de l'art abstrait? Alors que vous faisiez des choses si belles dans votre sensibilité, j'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout la même sensibilité. Alors il m'a simplement répondu, ah que voulez-vous, c'est la mode. Je dis, mais c'est terrible, vous tuez votre art en faisant ça. Tout le monde descend le fleuve, même les cadavres. Et donc quand vous vous habituez de descendre le fleuve, au bout d'un certain temps, vous deviendrez un cadavre. Dites-vous bien ça. Un cadavre spirituellement. Un cadavre au plan de la sensibilité. Vous ferez comme tout le monde. Des quantités de choses à dire là-dessus, hein, parce qu'on voit très bien que c'est la tentation permanente de descendre le fleuve. C'est facile de descendre le fleuve. Tout le monde descend le fleuve. C'est Peggy qui dit ça. Et Peggy ajoute, c'est difficile de remonter à la source. Ça, c'est le philosophe. C'est le spirituel. Il remonte à la source. C'est difficile de remonter à la source. Il faut avoir beaucoup de courage pour faut accepter d'être seul. C'est très beau, ça. Remonter à la source. Le philosophe, il remonte à la source. Il essaie de chercher la signification profonde. Ouais, je crois que c'est la meilleure définition de la philosophie. Selon un langage courant que tout le monde peut comprendre, il remonte à la source et il accepte d'être seul. Le philosophe recherche la vérité. Or, chercher la vérité, c'est nécessairement remonter à la source pour comprendre ce qu'est cette réalité. Et quand on cherche la vérité, il faut accepter d'être seul. Il ne faut pas s'occuper si on est seul ou s'il y en a beaucoup. On cherche la vérité. On remonte à la source. Alors, à la manière de Becky, hein, dites-le trois fois, c'est difficile de remonter à la source parce qu'on est seul. Et alors, à ce moment-là, il y a des doutes. Pourquoi suis-je seul? C'est vrai, c'est très inquiétant de prendre un train et d'être seul dans le train. Ben, je ne sais pas, mais ça fait partie de ces choses. Vous savez, comment se fait-il, pourquoi je suis seul? Mais personne. Vous cherchez quand même quelqu'un, un gardien, c'est-à-dire celui qui vient faire. Et puis personne. Ah, il y a quelqu'un qui conduit, mais comme vous ne pouvez pas l'atteindre, vous attendez la première gare, et puis vous vous demandez, mais c'est une petite expérience que j'ai faite une fois. Je me dis, mais je suis trompé, je suis seul dans ce train. C'est impossible. Tandis que quand il y en a beaucoup, je dis, ah oui, c'est tout à fait normal, tout le monde doit se... Tandis que quand on est seul, c'est vrai, c'est seul, c'est inquiétant d'être seul. Parce qu'on se dit quand même, les autres ne sont pas des imbéciles. Je suis seul. Bien, le philosophe, il doit accepter qu'il doit être seul. Et c'est pas commode. Spécialement quand il s'agit de la philosophie du vivant. Nous allons voir ça. J'ai vu. Je le dis tout de suite, ça va être le sujet de la fois dernière, mais c'est pour que vous compreniez mieux la position dans laquelle nous nous mettons. C'était en Suisse, donc je ne dis rien contre la France. C'était en Suisse, c'était dans le Valais. Il y avait des feuilles pour la catéchèse. Ça m'intéresse toujours de regarder ça. Et je voyais qu'on disait, surtout ne parlons plus de la distinction de l'âme et du corps. Alors nous allons en parler la fois prochaine. Surtout ne parlons plus de la distinction de l'âme et du corps. C'est une distinction périmée. Alors périmée, qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement? Au point de vue philosophique, on dit erroné. Et pas périmée, puisque le philosophe, il essaie de saisir des choses qui sont au-delà du temps. Périmée, c'est la mode. Quand les choses sont périmées, on se trompe de saison. Alors c'est périmé. Alors je continue, ça m'intéresse. Surtout ne parlons plus de la distinction de l'âme et du corps. Cette distinction est périmée, elle n'a plus aucun sens. Cette distinction, elle est grecque. Et le christianisme ne l'emploie plus. Alors, vous comprenez bien comment l'intelligence de philosophe n'a fait qu'un seul bond. J'ai essayé de regarder toutes les erreurs qu'il y avait dans ce texte. C'est intéressant d'en poser la critique. Distinction grecque, non, c'est pas une distinction grecque. C'est une distinction qui provient de l'Inde. Ah, vous comprenez que si on avait mis que c'était une distinction qui venait de l'Inde, tout le monde serait à genoux. Ça, c'est évident. Tandis qu'en c'est grec, or c'est une distinction qui provient des traditions religieuses de l'Inde. Ce n'est pas du tout une distinction grecque. Un des bons historiens de la Grèce, Préyé, dit textuellement, en parlant du stoïcisme, les stoïciens ont abandonné la distinction de l'âme et du corps, revenant à la grande tradition grecque. en une âme immortelle. Il n'y a pas d'âme immortelle. Il n'y a pas de tradition religieuse. Tout le monde sait que la mort existe. Ça ne fait pas partie de la foi. On constate ça. Tandis que les traditions religieuses parlent d'une âme immortelle. Autrement, il n'y aurait pas d'au-delà. Et donc, il n'y aurait pas d'aspect religieux au sens strict. Toutes les traditions religieuses parlent de la distinction de l'âme et du corps, parlent de la mort. L'âme prend des aspects différents. Et la grande tradition religieuse de l'Inde parle de l'âme et du corps. Et Platon a repris cette distinction et a essayé de réfléchir philosophiquement sur cette distinction de l'âme et du corps. Et Aristote a fait la même chose. Donc ne disons pas que la distinction de l'âme et du corps est une distinction grecque, de la philosophie grecque. C'est faux. Le mot âme est un mot qui n'est pas inventé par les philosophes. Le mot psyché et âme est un mot qui provient des traditions religieuses. Et le philosophe l'assume, parce que quand un philosophe est intelligent, il prend son bien partout où ce bien peut lui être donné. Le philosophe reste ouvert aux problèmes de l'homme. Et quand les traditions religieuses disent quelque chose de profond sur l'homme, le philosophe essaie de l'intégrer dans sa réflexion philosophique. Le jour où le philosophe ne s'intéresse plus à l'homme et n'essaie plus d'intégrer dans sa vision philosophique les traditions religieuses, ça prouve que le philosophe n'est plus un vivant. Il devient un spécialiste. Or, le propre du philosophe, c'est de ne pas être un spécialiste. C'est d'essayer de comprendre ce que c'est que l'homme. Et de comprendre la grandeur de l'homme. Et donc, il s'intéresse nécessairement aux traditions religieuses. Vous voyez, il y a deux mots qui viennent des traditions religieuses. L'âme et Dieu. L'âme et Dieu ne proviennent pas de la philosophie. Ça provient des traditions religieuses. Le philosophe l'introduit dans sa recherche philosophique pour voir si ces mots ont une signification et quelle est la signification de ces mots. Mais ce n'est pas le philosophe qui l'a inventé. Non. Le philosophe essaie de réfléchir sur ce que ça doit être et il se demande si les traditions religieuses qui transmettent ces mots, est-ce que ce sont des mythes ou des réalités? Bien saisi que nous allons toucher cette année-ci au plan philosophique un problème particulièrement important. Je crois qu'il est capital pour un chrétien. Je crois qu'il est capital pour un homme, même s'il n'est pas chrétien. Parce qu'il doit se demander ce qu'il est. Connais-toi toi-même. Le Nous y reviendrons encore une fois la fois prochaine. Les rapports entre la philosophie et la biologie sont très difficiles à bien préciser. Il faudrait développer ça sur des points multiples. J'essaierai d'y revenir de temps en temps. Mais la philosophie du vivant se situe d'une part par rapport à la biologie, d'autre part par rapport à la psychologie. Elle va voir constamment en face d'elle le point de vue de la biologie et d'autre part le point de vue psychologique. Tout ça, c'est très important. S'il y a des biologistes et des psychologues qui suivent ce cours, qu'il puisse y avoir un certain dialogue, ça intéresserait tout le monde. Parce que je crois que la philosophie réclame ce dialogue. Et c'est un problème extrêmement important de voir où se situe exactement la philosophie du vivant pour achever le point de vue de la biologie et le point de vue de la psychologie. Alors, essayons de préciser d'abord le point de vue de la biologie, après vous avoir montré l'importance de cette philosophie du vivant. Il y a quelques années, c'était à la Pardieu. On avait un petit groupe de messieurs intelligents réfléchissant sur les grands problèmes humains. Et parmi ces messieurs, il y avait le professeur Marois qui enseigne à la faculté de médecine, qui est celui qui a fondé l'Institut de la vie. Il a fondé l'Institut de la vie, c'est parce qu'il a vu que les progrès de la science biologique étaient tels qu'il ne voulait pas que la destinée de l'homme soit remise aux savants biologistes. Il voulait que d'autres savants s'intéressent à la biologie et qu'il y ait des philosophes et des théologiens. Je crois très honnête comme perspective. Le professeur Marois était invité à exposer la politique de la vie. En parlant de l'homme, c'est évident. La politique de la vie. Il nous a fait un cours extraordinaire qui a duré 3 heures. Et comme il est très vivant dans son exposé, c'était facile de le suivre et on s'est pas du tout ennuyé. La politique de la vie, j'avais presque envie aujourd'hui, oui, commencez pas en reprenant ces notes, voir la politique de la vie telle que le biologiste peut le dire. C'est une merveilleuse synthèse très intéressante. Et puis après on m'a demandé, entre deux il y a eu le repas, hein. Sous 3 heures, on a le droit de manger entre deux. La biologie doit rappeler que quand même le corps humain a besoin de s'alimenter. Après, on m'a demandé de dire ce que le philosophe peut dire sur la vie. J'avais suivi le cours avec un très grand intérêt. Ça m'avait passionné. Une petite inquiétude derrière, en me disant qu'est-ce que je vais bien dire derrière tout ça. Le philosophe se trouve tellement pauvre en face d'un biologiste qui vous décrit des choses étonnantes, merveilleuses, multiples et diverses. Alors j'ai commencé par vous dire, le philosophe ne se sert pas du microscope électronique. Tout ce que vous avez entendu, Aristote n'aurait pas pu le dire, saint Thomas n'aurait pas pu le dire, parce que c'est le fruit d'une expérimentation très poussée grâce au microscope électronique. Or, le philosophe ne s'en sert pas. Est-ce un con? des instruments. Aristote et Saint-Amos ne sont pas servis. Alors on ne se servirait pas d'électricité. On devrait faire les conférences à la bougie pour faire de l'aristotélisme. Pour avoir un climat particulier. Surtout pas d'imprimerie. Tout à la main. Ça existe de temps en temps, ces phobies, vous savez bien. Surtout pas hein, le progrès condamnable. Allez, vous vous en servez tout le temps du progrès. On se sert d'auto, on se sert du métro, on se sert de toutes choses. De nos vêtements. Du pain. De temps en temps, on voudrait bien revenir en arrière et manger le bon pain de nos ancêtres. Mais on peut pas, c'est impossible. Alors, si le philosophe ne se sert pas du microscope électronique, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il veut saisir la vie autrement que le scientifique. Dès le point de départ, il y a une différence. Et ça, je crois que c'est capital. Il y a deux avenues différentes qui regardent la même réalité. Deux avenues différentes. J'aime bien prendre cette comparaison. Elle est de Heidegger. Parce que Heidegger joue sur les mots Licht, Lichtung. Licht, la lumière. Lichtung, la clairière. Alors on voit très bien ce que c'est que la clairière dans une forêt. Il y a des clairières. Il y a des axes de pensée. J'aime bien parler d'axes de pensée. Et les axes de pensée éclairent, nous donnent de la lumière. Il y a un axe de pensée qui est la science biologique. C'est très vrai, c'est un axe de pensée. Il y a un autre axe de pensée, plus ancien et plus vénérable que la biologie, qui est la philosophie.
Oh. Thank you. Alors là, vous voyez tout de suite la différence entre l'expérimentation scientifique et l'expérience du philosophe. L'expérimentation scientifique mesure les sensibles communs. L'expérience du philosophe atteint les sensibles propres. C'est pour ça que Descartes dit que ne sont objectifs que les sensibles communs, parce qu'ils sont les seuls mesurables. Et Descartes dit ouvertement, rejetons tous les sensibles propres. Ça n'a rien à faire avec la philosophie. Alors à ce moment-là, le philosophe s'enferme, ou le savant, dans une connaissance uniquement de mensuration, donc quantitative. Et la qualité disparaît. Une certaine qualité qui demeure, elle est soumise à la quantité. Ça, je crois capital de réfléchir là-dessus. C'est le petit David en face de Goliath. Thank you. Parce que je t'aime beaucoup, ce petit pygmée. Problème.